Le rapport du Saint-Esprit et de l'Écriture est un sujet fondamental, parce que c'est là, dans ce rapport, que pour un chrétien se joue toute la possibilité du vrai. C'est là, dans ce nœud du Saint-Esprit et de l'Écriture, que commence la foi sans laquelle je suis mort, et tout se joue dans la manière dont nous croyons ce rapport du Saint-Esprit et de l'Écriture. Dans un texte que vous connaissez bien, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, Paul dit « Sans l'Esprit, le texte tue. » Mais sans l'Écriture, l'Esprit n'est-il pas aphone ? Ou peut-être pire, ne court-il pas le risque d'être prisonnier de mes fantasmes et de mes manipulations ? J'aimerais faire un triple préambule à mon propos. Premier point, j'ai le sentiment que le rapport du Saint-Esprit et de l'Écriture est perçu au milieu de nous comme un rapport plus difficile à vivre qu'à croire. J'ai le sentiment que nous n'avons pas beaucoup de difficultés, à cause même de notre engagement, à croire que, effectivement, le Saint-Esprit a inspiré les auteurs du texte biblique et que nous n'avons pas non plus beaucoup de difficultés à confesser l'exigence de l'illumination du lecteur par le Saint-Esprit, mais que notre difficulté se trouve plutôt sur le versant existentiel. Nous avons du mal à vivre dans l'expérience le rapport du Saint-Esprit et de l'Écriture. J'ai le sentiment que autant l'invocation du Saint-Esprit reste, malgré tous les avatars que l'on peut connaître dans notre vie spirituelle, autant l'invocation du Saint-Esprit dans notre imagination, dans le monde de notre foi, est perçue comme source de vie, source de mobilité, lieu de dynamique, de changement, de nouveau, autant la fréquentation de l'Écriture se situe dans le camp du déjà là, du déjà vu, du déjà lu. Et l'Écriture ajoute à ce handicap celui du fossé historique et culturel qui sépare le temps de l'Écriture du temps de la lecture, fossé qui ne fait que s'agrandir. Au fond, les choses se passent comme si, en fixant la parole, l'Écriture l'avait lestée d'un poids, d'une certaine inertie, lui avait ôté une certaine mobilité, lui avait enlevé une certaine vibration. Et comme si, dans l'Écriture, la parole devenait une sorte de conserve de langage, vénérable à coup sûr, vénérée sans doute de la plupart d'entre nous, mais plus facilement apte à nourrir une fidélité de pensée qu'un renouveau constant de la pensée. Au fond, notre monde d'image chrétien est peut-être habité par deux images, en ce qui concerne le sujet en tout cas de ce soir. Nous avons d'un côté la promesse du Saint-Esprit, fleuve d'eau vive, et de l'autre côté, nous avons la présentation de l'Écriture comme dépôt de la foi, avec, en plus du côté de l'Écriture, le problème de toutes les interprétations qui l'affectent, de toutes les traditions d'Église qui y touchent, comme si on en avait parfois fait une momie entourée de toutes sortes de bandelettes. Premier point du préambule. Deuxième point, Je voudrais rappeler, mais ai-je besoin de le faire, que le rapport du Saint-Esprit et de l'Écriture ne met pas en scène deux réalités du même ordre. Le Saint-Esprit est une personne. L'Écriture est un instrument. Sans vouloir discuter la question philosophiquement très actuelle de savoir si l'être dispose du langage ou si c'est le langage qui dispose de l'être en s'imposant à lui, je note en tout cas que l'Écriture se présente d'elle-même du côté de l'instrument. J'évoque très rapidement deux passages sur lesquels nous aurons sans doute l'occasion de revenir. Le premier se situe dans le livre de l'Exode, chapitre 17, verset 14. Je lis ce texte. « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, dit l'Éternel à Moïse après la victoire d'Israël sur les Amalécites. » Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. L'Écriture est instrument pour la mémoire. Et puis le deuxième passage que je voudrais évoquer, que nous allons lire, se trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, 2 Timothée 3, verset 14. Ou de verset 15. « Depuis ton enfance, dit Paul à Timothée, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et outillé pour toute œuvre bonne. » L'Écriture, instrument pour procurer la sagesse salutaire, dit Paul à Timothée. Elle est utile du côté de l'outil pour outiller l'homme de Dieu dans l'accomplissement de sa tâche. Ce texte de l'Épître de Paul à Timothée est invoqué, et à juste raison en même temps, pour souligner aussi le statut de l'Écriture comme parole de Dieu. Toute l'Écriture, dit le texte, est théopneustos. Toute l'Écriture, Ancien Testament et Nouveau Testament, est théopneustos, c'est-à-dire soufflée de Dieu, expression du souffle de Dieu, expression de son esprit, de son pneuma. Nous sommes ici au cœur de notre foi. Nous croyons ce que nous lisons dans la Bible parce que nous croyons qu'elle est la parole de Dieu. C'est à ce titre que nous reconnaissons à l'Écriture un statut unique au milieu de toutes les autres Écritures. Ce que la Bible dit, Dieu le dit. L'autorité de la Bible sur nous n'est pas aléatoirement celle de Dieu. L'autorité de l'Écriture est intrinsèquement l'autorité même de Dieu. Je vous renvoie à un certain nombre de passages. Je les citerai simplement pour ne pas faire trop long. Matthieu, chapitre 19, versets 4 et 5, Actes 4, verset 25, Hébreux, chapitre 3, verset 7. C'est le type de passage dans lequel nous voyons une équivalence claire entre l'expression « l'Écriture dit » et « Dieu dit » ou « l'Esprit dit ». Et même dans Hébreux, chapitre 3, verset 7, il est dit « le Saint-Esprit dit » et suit une citation de l'Écriture. Nous avons encore des passages spectaculaires qui établissent l'équivalence de la parole de Dieu avec l'Écriture. Par exemple, Épître aux Romains, chapitre 9, verset 17, avec une expression absolument étonnante. Paul dit « L'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité, tout exprès pour montrer en toi ma puissance. » L'Écriture dit à Pharaon. Ou encore dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 8. L'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens, etc. Bon, j'arrête là cette énumération. Nous croyons que l'Écriture est la parole de Dieu. Et cependant, elle se situe du côté d'un instrument que nous pouvons utiliser. L'instrument, c'est d'abord celui du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui utilise l'Écriture pour opérer au travers d'elle la révélation de l'œuvre de Dieu accomplie en Jésus-Christ. Et parce que l'Écriture est instrument du Saint-Esprit, il appert, comme dirait Calvin, il appert deux choses. La première, c'est qu'il n'est pas possible, à aucun moment du raisonnement, à aucun moment de notre foi, de séparer le Saint-Esprit de l'Écriture. Il n'est pas possible de séparer la parole du souffle de celui qui parle. Il est illusoire, ruineux, de vouloir dresser le Saint-Esprit contre l'Écriture ou l'Écriture contre le Saint-Esprit, ou d'invoquer l'autorité de l'un contre l'autre. Il n'est pas non plus possible de confondre le Saint-Esprit et l'Écriture, nous l'avons dit. L'un se situe du côté de la personne. Le Saint-Esprit souffle où il veut. Il est insaisissable, immaîtrisable. Mais l'Écriture s'offre comme instrument. Elle s'offre à être utilisée. Et elle nous pose la question, comment utilisons-nous l'Écriture ? Comment est-ce que j'utilise l'Écriture ? Précisément, voici le troisième point du préambule. Nous avons tendance à accentuer le rapport Saint-Esprit-Écriture dans un sens. Nous avons tendance à le faire jouer de façon préférentielle dans le sens qui va du Saint-Esprit vers l'Écriture. Nous insistons sur le fait que l'Écriture est la parole de Dieu. Ça nous paraît complètement fondamental et c'est complètement juste. L'Écriture est la parole de Dieu. Parce que si l'Écriture n'est qu'un témoignage parmi d'autres, si elle n'est qu'une parole parmi d'autres, alors pourquoi en faire le fondement de ma foi et la norme de ma vie ? Il faut défendre, et c'est le sens même de l'existence des clubs bibliques lycéens, des groupes bibliques universitaires, des amis, il faut défendre l'affirmation sur laquelle repose la foi chrétienne et en dehors de laquelle il n'y a pas de foi chrétienne. L'Écriture est la parole de Dieu. Ce que la Bible dit, Dieu le dit. En même temps, nous confessons l'idée que l'inspiration, avec l'inspiration divine de l'Écriture, il y a aussi l'exigence de l'illumination du lecteur par le Saint-Esprit. Pour que l'Écriture soit reconnue pour ce qu'elle est, comme parole de Dieu, il faut que l'Esprit qui l'inspire soit aussi celui qui guide le lecteur. C'est par l'esprit et dans l'esprit que je peux reconnaître l'Écriture comme parole de Dieu et l'écouter comme la parole de Dieu. De ce point de vue, par rapport à cette affirmation centrale, l'Écriture est la parole de Dieu, il ne manque pas de théologie du dérapage. Mais je ne voudrais pas qu'on aille chercher trop loin le danger de déraper. Il nous menace tous. Et il me semble qu'il nous menace dès l'instant où nous manquons d'énoncer la proposition réciproque. Nous disons volontiers, nous insistons sur le fait que l'Écriture est la parole de Dieu. Mais nous risquons de passer à côté de ce que nous disons si nous ne réalisons pas en même temps que la parole de Dieu est Écriture. Et que dans cette réciproque aussi, tout se joue. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que je crois que Dieu parle en m'écrivant. Autrement dit encore, je ne puis pas comprendre ce que Dieu veut me dire si je n'accepte pas de me plier aux règles qui président au fonctionnement du langage écrit. Tout autre traitement de la parole de Dieu que celui qui accepte de se plier à cette règle, tout autre traitement de la parole de Dieu débouche sur une trahison, aussi sincère soit-il. Même si ma lecture se réclame du Saint-Esprit, je puis, à cet égard, à partir du texte biblique, dire les pires bêtises. Le Saint-Esprit a choisi l'Écriture, le langage écrit pour parler. Si bien que se dérober à cette exigence de l'étude du texte, ce n'est pas trouver un raccourci, mais c'est courir le risque constant de faire parler le texte. C'est pourquoi c'est sur cet aspect du rapport que je voudrais insister. L'aspect du rapport qui va de l'Écriture vers le Saint-Esprit. Il me semble que c'est ce qui nous est le plus difficile à vivre. Parce qu'au fond, il est sous-tendu par la question « Mais pourquoi donc Dieu a-t-il choisi de nous parler en nous écrivant ? Est-ce que ça ne serait pas plus vite fait et plus simple autrement ?» Et puis, comment faire cohabiter deux choses qui paraissent malgré tout divergentes ? Première affirmation de la foi, Dieu habite en nous par son Saint-Esprit. Dieu habite en nous par son Saint-Esprit. Je crois que Dieu, par son Saint-Esprit, est plus intime à moi-même que moi-même. Et deuxième affirmation de la foi, Dieu me parle au travers de l'Écriture. Et je dis que ce sont deux affirmations apparemment divergentes, parce que l'une me parle de présence immédiate et l'autre me parle d'écriture, or écrire. Qu'est-ce que c'est sinon entretenir avec quelqu'un un rapport d'absence ou un rapport de distance? Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un ici, pendant le congrès, eh bien, je vais profiter de sa présence pour lui parler. Je ne lui écrirai que si je n'ai pas eu le temps de lui parler au congrès et que nous sommes séparés par un certain nombre de kilomètres, en espérant que les PTT fonctionneront. Et si l'écriture n'est alors qu'une procuration de présence. Et est-ce que ça n'est pas un peu notre impression quand nous lisons la Bible, que Dieu n'y est présent que par procuration? Si l'Écriture n'est qu'une procuration de présence, si nous n'arrivons pas tout à fait à vivre le fait que ce que nous lisons, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu et dont il faut vivre, pas rien que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si, comme s'exclame Jacques Ellul, nous avons l'impression que dans l'Écriture, il n'y a plus personne, il n'y a plus de souffle, alors, comment concilier cet exil de Dieu dans l'Écriture et cette présence de Dieu en moi par son Saint-Esprit? C'est donc la question que je pose, c'est celle de l'adéquation de l'Écriture à la mission du Saint-Esprit auprès de nous et en nous. Il y a beaucoup de pistes si on veut explorer ce domaine. Je ne vais en explorer que deux premières pistes. Il me semble que l'écrit, l'écriture, a un rapport privilégié avec le temps. Et donc, le premier point que je voudrais souligner, c'est l'Écriture et le temps de la certitude. J'aimerais lire dans l'Évangile de Luc, Luc chapitre 1, versets 1 à 4. Nous lisons simplement le verset 3 et 4 pour aller plus vite. « Il m'a semblé bon, dit Luc, il m'a semblé bon, il écrit à Théophile, que... après avoir tout recherché, exactement depuis les origines, il m'a semblé bon de t'exposer par écrit, d'une manière suivie, tous les événements qui se sont accomplis, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Apocalypse, chapitre 21, verset 5. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. L'Écriture, c'est le sceau de certitude de la parole. Sceau, S-C-E-A-U. La certitude de la parole, quelqu'un a dit Daniel, la certitude de la parole est scellée de trois manières. L'écriture, comme écriture, scelle la permanence de la parole. Une parole écrite demeure. Et on pourrait faire citer en écho le texte de 1 Pierre 1, verset 23, qui parle de la parole vivante et permanente de Dieu. Les paroles s'envolent, les écrits restent, dit le proverbe. L'Écriture joue dans le sens de la sauvegarde de la parole. Le texte, tous les textes, sont une arme contre le temps, contre l'oubli, contre les rêveries. Et il me semble que l'Écriture joue un rôle éminent de sauvegarde de la parole sur les deux versants de la parole, du côté de l'émetteur de la parole. L'émetteur qui accepte que sa parole soit consignée par écrit accepte en même temps de ne pas revenir sur sa parole. Il accepte de ne pas reprendre, il s'engage à ne pas altérer ce qu'il a dit. Et du côté du récepteur, qui lui est exposé à l'oubli de la parole, ou bien qui est exposé aux aménagements subjectifs de ce qu'il a entendu. Et d'ailleurs, je note en passant que le texte, comme tel, c'est ce qui a force de loi pour toutes les institutions au milieu de nous. C'est l'écriture qui fait la décision, qui fait la règle dans l'État, dans l'Église, dans l'enseignement, que sais-je. Heidegger dit « c'est dans l'écrit que le parler prend stature ». Écrire donne stature à la parole et la fait se tenir contre ce qui la menace, l'eau, le sable, le vent. Ainsi l'écriture sauvegarde-t-elle la parole. Elle le fait non seulement en la fixant, mais en lui donnant de surcroît la possibilité d'être là de façon permanente. L'écriture donne à la parole la possibilité d'être un maintenant permanent. J'ai la parole de Dieu. Je l'ai de façon permanente. Et donc, en ce qui concerne la Bible se présente comme l'instrument par lequel le Saint-Esprit ne se lasse pas de dire « aujourd'hui, si vous entendez sa voix ». La deuxième volet de ce temps de la certitude, c'est que l'Écriture scelle l'engagement de celui qui parle dans ce qu'il dit. Il me semble que nous ne méditons pas assez ce que, du côté de Dieu, l'Écriture signifie. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, verset 27, l'Éternel dit à Moïse « Écris mes paroles ». Car c'est conformément à elle que je conclus une alliance avec toi et avec Israël. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Les tables étaient l'œuvre de Dieu, l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. L'écrit souligne l'engagement de celui qui parle dans ce qu'il dit. C'est conformément à elle que je conclue une alliance avec toi, dit le Seigneur. Écrire, c'est sortir d'une manière irréversible de la sphère des intentions. C'est tracer son engagement d'une manière publique, d'une manière qui donne prise aux autres sur mon engagement. Est-ce que nous mesurons à sa juste valeur le fait que Dieu écrive, nous écrive ? Le Seigneur fait alliance avec nous, non pas dans une disposition secrète de son cœur, qu'il pourrait souverainement reprendre sans que personne de nous n'ait rien à dire, c'est lui le Seigneur. Mais le Seigneur fait alliance avec nous et il met par écrit ses paroles et il nous donne l'écriture. Le Seigneur s'engage auprès de nous. Le Seigneur nous écrit sa fidélité. Jusqu'à ce que la terre passe, pas un iota ne sera changé, rappelle Jésus. Le Seigneur nous écrit sa fidélité, et comment ne pas voir l'éblouissante correspondance entre l'inscripturation de la parole de Dieu et l'incarnation du Verbe de Dieu. Qui, plus que le Fils, qui vient, comme dit l'apôtre Jean, nous donner l'exégèse du Père. Qui, plus que le Fils, aurait pu tracer au milieu de nous l'engagement irréversible de Dieu à notre égard? Et de même que par l'Écriture, Dieu a fait exode au milieu de nous, de la même façon qu'il s'est exposé à nous par l'Écriture, de même d'une façon excellente, définitive, sans pouvoir rien en reprendre pour l'éternité, comme parole de chair au milieu de nous, éternellement gravée dans notre histoire, le Fils a quitté la gloire du Père pour s'engager, pour nous sauver. Et là encore, l'Écriture qualifie la sûreté et la fidélité de l'action de Dieu. Que dit le Seigneur Jésus ? Je suis l'alpha et l'oméga. L'Écriture fournit encore l'image de la fidélité de Dieu à notre égard. Celui qui est, qui était et qui vient. Alors nous comprenons l'irritation de Jacques quand il écrit à ses correspondants « Mais croyez-vous que l'Écriture parle dans le vide ? Croyez-vous que ce soit un discours gratuit ?» C'est pour nous atteindre que l'Écriture est donnée. J'aimerais passer au troisième point et le raccourcir un peu. C'est la certitude de l'Écriture, troisième point, qui fonde et qui protège notre foi. L'Écriture nous est présentée comme l'épée du Saint-Esprit. C'est elle que l'Esprit utilise. Nul ne peut voir le royaume de Dieu, dit Jésus à Nicodème, s'il ne naît d'eau et d'esprit. Tout le monde traduit, à juste titre, s'il ne naît... Pas tout le monde. Il faut traduire, à juste titre, s'il ne naît de la parole et de l'Esprit. Nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de la parole et de l'Esprit. Et Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Je ne m'attarde pas sur ce point, nous savons que la foi, notre foi, vient de l'Écriture. Mais j'aimerais souligner le problème du rapport de l'Écriture à l'histoire et à notre histoire. Parce qu'il me semble que c'est dans le courant de notre histoire que nous perdons petit à petit le sens de la vitalité de l'Écriture et sa capacité à nous donner de la vie ou à renouveler notre vie. Je dirais d'abord que sans parole, il n'y a pas d'histoire. Les histoires sans parole n'existent pas. Au premier temps du cinéma, on voit des films muets. Et les acteurs ont une espèce d'attitude saccadée en permanence qui tient évidemment aux imperfections techniques du cinéma à cette époque-là. Mais cela souligne comme cette espèce de discontinuité permanente des personnages qui sont là, souligne comme le fait que l'absence de la parole rend impossible le lien de tous les instants de notre vie. C'est la parole qui vient lier le présent, le passé, le futur. C'est elle qui fait que l'existence ne soit pas une suite saccadée de gestes, de décisions, d'actes, de projets. Il n'y a pas d'histoire sans parole. C'est la parole qui est le vecteur de l'histoire. Or, Dieu, quand il nous écrit, Il nous dit la vocation de sa parole à devenir notre histoire. Qu'est-ce que cela signifie ? Il me semble que l'Écriture ne souligne pas l'engagement de Dieu dans le temps, comme nous l'avons remarqué, sans retourner vers nous l'exigence dont elle porte la marque. Dieu s'engage en nous écrivant, nous ne pouvons pas répondre à ce qu'il nous écrit sans nous engager à notre tour. On ne peut pas répondre à Dieu sur le mode de l'anecdotique. On ne peut pas répondre à Dieu sur le mode de la simple croyance sans engagement de notre part. Et c'est pourquoi l'apôtre Jacques, encore lui, fulmine contre ceux qui prétendent avoir la foi et ne montrent pas les fruits de leur engagement dans les œuvres. Les démons croient aussi. On ne répond à Dieu et à ce qu'il nous dit que si on s'engage à faire du texte de l'Écriture la tessiture de notre existence. Et c'est pourquoi l'avènement de la foi est comparé dans l'Écriture à une nouvelle naissance. C'est bien une histoire qui commence. Deuxième point, mais je passe très rapidement, je crois qu'on ne peut pas trouver ailleurs que dans l'Écriture la force de persévérer dans la foi. Je passe sur ce point parce que je vois que le temps passe, mais on pourra y revenir si vous voulez par la suite. C'est dans l'Écriture parce qu'elle porte la marque de la fidélité irréversible de Dieu à notre égard que je vais trouver la force, moi aussi, de persévérer. Je ne peux lire ça nulle part ailleurs que dans l'Écriture. Et puis je dirais que de notre côté aussi, alors, et le dernier point pour cette première partie, et que dans l'Écriture, c'est l'Écriture aussi qui nous permet de lutter contre l'oubli. Et il me semble que nous mésestimons gravement le risque de l'oubli. La force de l'oubli dans une vie chrétienne, pardonnez-moi de vous dire ça, mais c'est de savoir se faire oublier. Or, le risque de l'oubli est un risque majeur pour le chrétien. Plusieurs, et pour des raisons que je n'évoquerai pas, connaissent cette phrase de Nietzsche. Nietzsche disait : l'avantage de la mauvaise mémoire, c'est qu'on jouit plusieurs fois des mêmes choses pour la première fois. L'oubli spirituel ne peut pas se traiter sur le mode de la boutade. Et Nietzsche aurait dû soupçonner que l'amnésie qui nous guette dans notre vie chrétienne n'est pas simplement de type technique, défaut de mémorisation, mais que l'amnésie qui nous guette, c'est aussi une amnésie refus de mémoire. Illusion d'une mémoire qui remodèle à sa façon ce qu'elle a entendu. Et au fond, l'Écriture est là comme l'instrument du Saint-Esprit qui conduit ma mémoire à se souvenir toujours et toujours de ce qu'elle sait et à se souvenir aussi de ce qu'elle a voulu oublier. Ainsi, me semble-t-il, l'Écriture accomplit-elle l'œuvre du Saint-Esprit que Jésus lui-même a définie et qui est l'œuvre fondamentale du Saint-Esprit au-delà de toutes les images que nous en avons, peut-être plus spectaculaires. Jean chapitre 14, versets 25 et 26, Jésus dit à ses disciples : « Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous, mais le Consolateur, Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et qui vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Et on pourrait citer, mais je passe rapidement aussi, on pourrait citer d'autres passages de l'Écriture. Par exemple, un texte étonnant de Paul à Timothée. Paul écrivant à Timothée, après lui avoir tressé des couronnes pas possibles, « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Souviens-toi de Jésus-Christ. » Ou alors, Jésus reprenant ses disciples après la multiplication des pains, quelque temps après la multiplication des pains, il se met à leur parler du levain des pharisiens et d'Hérode. « Gardez-vous du levain des pharisiens et d'Hérode. » Et les disciples, « Mais pourquoi ils parlent du levain? On n'a pas de pain. » Et Jésus dit, « Mais faut-il que je vous rappelle ce qui s'est passé ?» Cœur endurci. L'oubli et l'endurcissement vont souvent de pair. Et quand elle lutte contre l'oubli, l'Écriture lutte aussi contre notre endurcissement, en nous rappelant ce dont nous devons vivre. Ainsi, l'Écriture nous protège des égarements amnésiques. Elle est là d'une façon permanente. Elle se prête à toutes les prises de conscience et toutes les reprises de conscience par lesquelles alors nous pouvons constituer la mémoire active de l'œuvre de Dieu dans nos vies et dans notre histoire. Et il me semble que pour bien saisir cette importance de l'Écriture, ce que nous avons le plus de mal à percevoir, c'est l'importance de l'Écriture dans le temps. Nous voudrions la voir dans l'instant. Mais dans le temps, nous avons du mal à percevoir l'importance de l'Écriture parce que nous oublions l'oubli. Et nous oublions que l'oubli est souvent le masque de l'endurcissement. Et nous devrions aussi ne pas nous souvenir que ce qui est important dans la vie chrétienne, ce n'est pas seulement ce qui survient, par exemple, dans la lecture de l'Écriture. Ce qui est un fait dans la vie chrétienne, comme dans la réalité. Ce qui est un fait, ce n'est pas ce qui arrive de nouveau, c'est aussi ce qui dure. Lévi-Strauss disait que la stabilité n'est pas moins mystérieuse que le changement. Et si nous y réfléchissons bien, c'est vrai. Ce qui dure est un fait de notre existence. Et je laisse à votre méditation aussi ce texte de l'Évangile de Matthieu, où Jésus dit, mais nous le lisons à notre manière si souvent, « Tout scribe instruit du royaume des cieux ou devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Et des choses anciennes. Alors, n'étalonnons pas l'efficacité de l'Écriture au nouveau qui survient dans notre vie. L'Écriture est l'instrument du Saint-Esprit pour structurer notre histoire et pas pour nous faire des frayeurs ou des frissons avec des nouveaux qui nous surprendraient toujours. Je passe au deuxième, qui sera le dernier point, rassurez-vous. Deuxième piste, l'Écriture est la clarté de la vérité.